RCF.
Vous écoutez RCF le 18-19 en région avec Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Régional. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
En direct jusqu'à 19h avec RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. On a bien sûr nos chroniqueurs, notre chroniqueur habituel qui est Robert. Robert Reverger, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
Dans un instant et puis un programme assez chargé, assez complet.
Effectivement Jean-Pierre, nous parlerons notamment ce soir de la maîtrise de la cathédrale de Reims qui est en direction de Lourdes avec Sandrine Lebec qui est la directrice de la maîtrise
et Laetitia Stens
qui est son assistante, qui est la directrice de la petite maîtrise.
Oui, la pré-maîtrise. Et ils sont partis, et je crois d'ailleurs, pour ne pas trahir de secret, mais on met toujours nos auditeurs dans la confidence, que demain, dans le direct du 18-19, vous allez être en lien avec elles.
Effectivement, elles seront avec nous depuis Lourdes et puis nous raconter un petit peu leur périple. Et on les retrouvera également vendredi. On va les suivre tout au long de la fin de semaine, Jean-Pierre.
Ils vont faire des concerts à Tarbes et puis dans la région pyrénéenne. Ils vont naviguer un petit peu dans tout ça et on en parlera donc. Très très bonne nouvelle, ce sera à la fois jeudi, mais aussi je crois, sans trahir de secret, vendredi dans 18-19.
Effectivement, et puis deux conférences sur le père Louis Lauchet à venir dans notre diocèse, qui seront présentées par le père Claude Collignon, avec des dates à cocher dans l'agenda, selon si l'on se trouve plutôt du côté de Reims ou du côté de Charleville-Mézières, les 25 et 26 avril.
25 avril à Charleville-Mézières, 26 avril à Reims. Mais il y a aussi un événement que nous avons vécu aujourd'hui. Ce sont les obsèques de Jacques Husson qui avait joué un rôle important il y a quelques années à la radio comme bénévole.
Et on aura des témoins qui l'ont bien connu, qui l'ont fréquenté, qui l'a accompagné dans ses différentes aventures, notamment dans l'émission Sportiplex. Nous serons donc avec Édouard Savard et avec Arnaud Valadon, que vous avez bien connu sur RCF Reims-Ardennes notamment.
Absolument, et d'ailleurs à ces obsèques, il faut remarquer qu'il y avait une représentation importante du monde sportif. J'ai d'ailleurs noté la présence de Raphaël Blanchard, adjoint au maire de Reims chargé des sports. Il avait joué un rôle important auprès de l'association sportive de handball de Saint-Brice.
Tout à fait, de la Saint-Brice-Courcelles. Et puis, pour terminer le programme de ce magazine régional ce mercredi soir, Jean-Pierre, nous recevrons également Maxime Cachard. En tout cas, elle sera en direct avec nous par téléphone, qui est professeur de sciences économiques sociales au lycée Saint-Jean 23 de Reims, puisque vous savez que le lycée revient avec son initiative de boxe solidaire à destination des étudiants. La distribution, c'est en ce moment, à l'heure où l'on se parle, devant les coquilles de l'université de Reims-Champagne-Ardenne.
Alors, il faut bien comprendre pour nos auditeurs, comme moi qui parfois une oreille qui n'est pas attentive, quand vous parlez de boxe, il s'agit bien d'emplacement, de placard où on met de l'alimentation, et c'est pas la boxe au sens sport, hein.
Effectivement, c'est pas la boxe au sens sportif, c'est plutôt la boxe, effectivement, le petit carton,
c'est
on va dire, la boîte à chaussures que l'on a récupérée,
voilà.
Dans laquelle on met quelques ingrédients, quelques produits d'hygiène. On nous présentera tout cela tout à l'heure, ça sera juste après le journal régional de 18h30. Mais pour l'heure, à 18h13, passé de 30 secondes, vous êtes avec notre chroniqueur, Robert Reverger.
Robert Reverger, rebonsoir.
Rebonsoir Jean-Pierre Benoît.
C'est l'occasion pour nous de vous retrouver aujourd'hui avec un mot, comme tous les mercredis.
Oui.
De quoi s'agit-il aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, nous parlerons de précarité.
Alors nous savons tous, hélas, ce qu'est la précarité, mais est-ce que vous pouvez nous donner tout de même la définition exacte de ce mot ?
Oui, selon les dictionnaires, la précarité se définit comme la qualité, je vais vous étonner, de ce qui est précaire.
Ah ben oui, vous pourriez nous en dire un peu plus, parce qu'il y a le mot précaire, alors bien sûr, mais encore.
Oui, ben les synonymes de précaire sont nombreux, mais ils sont hélas, si j'ose dire, cumulables. Alors, et précaire, ce qui est incertain, instable, fragile, fugitif, provisoire, par exemple, on parle de situation précaire, d'emploi précaire.
Alors, que signifie-t-il en droit ?
En droit est précaire ce qui est résiliable, ce qui est révocable. Jadis, on parlait de détention précaire qui était l'autorisation de posséder un bien, mais cette autorisation pouvait être enlevée à tout moment sur simple décision du propriétaire du bien.
Quelle est la racine du mot précaire, précarité ?
Précaire vient du latin precarius, qui lui-même vient de précari, qui signifiait demander à un pouvoir supérieur, autrement dit adresser des prières.
Alors, évidemment, il y a quand même pas mal de questions qu'on peut vous poser, Robert. Qu'entend-on aujourd'hui par précarité ? Quelles en sont les conséquences ?
Eh bien, on emploie le mot précaire pour masquer une réalité bien plus sombre, bien sûr, que marquent les mots pauvreté, misère et exclusion, le mot précarité mettant l'accent sur le côté provisoire d'une situation. Alors, pour ce qui est des conséquences, il s'agit d'abord, je le répète, de la pauvreté, souvent la misère qui entraîne trop souvent, hélas encore, l'exclusion.
Alors, quels sont les critères officiels qui définissent la pauvreté ?
D'après l'INSEE, la pauvreté se définit, je cite, « comme un état de manque en termes de biens économiques ou de ressources de santé ou de position sociale telle que la personne est incapable de vivre de la même façon que la moyenne des autres personnes de la société ».
Alors en chiffres, comment se traduit cette situation ? En quelques chiffres, Robert ?
Oui. Deux études datant de 2015 apportent des réponses à votre question. En France métropolitaine, 2,5 millions de personnes sont dans ce qu'on appelle une précarité extrême.
C'est-à-dire précarité extrême ?
Alors, par exemple, en 2012, ces personnes vivaient avec 660 euros maximum par mois et, pour la moitié d'entre elles, avec moins de 550 euros, c'est-à-dire bien en dessous du seuil de pauvreté monétaire qui était alors de 987 euros. Et la situation, hélas, s'est encore dégradée depuis.
Alors si on examine de près la situation de cette précarité, quelles sont les catégories sociales les plus touchées par cette pauvreté ?
Ce sont les personnes sans emploi, les familles monoparentales, les jeunes et les immigrés, ces jeunes et ces immigrés étant de plus en plus nombreux avec des difficultés d'insertion, dans le marché du travail.
Alors si on prend un exemple, parce qu'on en parle beaucoup dans l'actualité, celui des jeunes. En quoi leur situation est-elle particulière ? En quoi leur situation est-elle préoccupante ?
Les jeunes adultes de moins de 25 ans représentent 40% des adultes pauvres. Lorsqu'ils ne sont pas étudiants, ils sont souvent sans travail et sont peu couverts évidemment par l'assurance chômage. De plus, ils vivent majoritairement chez leurs parents, fréquemment, hélas encore, dans des familles monoparentales très présentes dans le bas de l'échelle sociale.
Alors, autre conséquence de la pauvreté, vous nous l'avez dit, l'exclusion. Et parmi les exclus, on trouve les pauvres qui n'ont pas de domicile fixe, les SDF, sans oublier les mal logés.
Oui, selon le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, qui a été publié en février 2013, 330 000 personnes étaient sans domicile fixe en France, un nombre qui avait plus que doublé, soit par exemple une augmentation de 130% exactement, en 10 ans, et plus de 4 millions de personnes étaient mal logées.
Alors de nos jours, pour y voir un peu plus clair, quels sont ces effets de la précarité ?
Les principaux effets se font sentir sur la santé physique ou mentale, bien sûr, que l'on ne prend pas assez en compte et que donc on a du mal, hélas, à traiter.
Alors c'est vrai, on en parle souvent sur l'antenne de RCF. Heureusement, il y a les organismes humanitaires qui viennent en aide aux plus démunis, aux plus précaires. On peut parler des Restos du Cœur, de la Fondation Abbé Pierre, du Secours Populaire, du Secours Catholique, de la Croix-Rouge Française. Alors bon, il y a quand même pas mal de gens qui aident quand même.
Oui, je suis évidemment de votre avis, mais ces organismes qui ne peuvent pas traiter le mal à la racine sont hélas contraints de se limiter à atténuer le mal. Ce qui n'est pas évident étant donné l'aggravation permanente de la situation. Les chiffres sont hélas parlants.
Alors justement, pour terminer votre chronique, vous allez nous rappeler quelques chiffres, Robert ?
Oui, quelques chiffres. Le nombre de repas distribués par les Restos du Cœur a explosé. Et ils sont passés de 142 millions en 2022 à plus de 170 millions en 2023. Alors pendant ce temps, les subventions publiques ont baissé de 20 millions d'euros. Et là, heureusement d'ailleurs que suite à un appel lancé par le président des Restos du Cœur, M. Patrice Douré, le 3 septembre dernier, et qui est très pessimiste quant à l'avenir de son association, la ministre de Solidarité a annoncé une aide de 15 millions
à peu près.
On ne sait pas quand.
Alors, heureusement aussi que des aides privées de plusieurs dizaines de millions d'euros sont aussi versées.
Et oui, sans oublier évidemment les collectes alimentaires.
Merci Robert Auverger, toujours en direct le mercredi avec nous pour votre chronique qui est basée sur un mot. Aujourd'hui, c'était le mot précarité. Alors, votre mot de la semaine prochaine, Robert ?
Eh bien, ce sera le mot dopage.
Merci d'avoir été avec nous, 18h20.
Le 18-19 sur RCF.
Toujours dans le magazine régional sur RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, Jean-Pierre, c'est vrai que cette journée, ce mercredi, a été marquée par une émotion toute particulière depuis qu'on a appris le décès de Jacky Husson en fin de semaine dernière. Et on avait relayé que les obsèques étaient célébrées ce mercredi après-midi. Vous y étiez d'ailleurs, c'était à l'église de Saint-Brice-Courcelles.
Nous y étions, Fabrice Gironet était présent également pour l'antenne de RCF France-Ardenne. J'étais sur place également. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs dans l'église de Saint-Brice. Ce qui prouve quand même que Jacky Husson était estimé parce que il n'était plus vraiment tout à fait dans la commune. Il avait été hospitalisé, il connaissait des difficultés de santé, mais il avait travaillé à RCF bénévolement. Il était venu par le sport, c'est-à-dire qu'il avait reçu un appel un jour en disant il faudrait quelqu'un qui encadre un peu les sportifs. Et si ma mémoire est bonne, j'en suis plus tout à fait sûr, c'est Bruno Maes qui habitait à l'époque Saint-Brice-Courcelles, qui m'avait joint en me disant « Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui est passionné de sport parce qu'il le voyait dans la paroisse, il s'occupe du handball. Et comme vous venez de monter avec le père Bernard Gouraud à l'époque une émission sportive, peut-être qu'il pourrait vous donner un coup de main. » C'est comme ça qu'il est venu, Alexis. Il est venu par le sport et ensuite il a fait des reportages, il a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses avec les personnes d'accueil et tout ça.
Et justement, vous venez de le dire, Jean-Pierre, il est arrivé à RCF par la voie du sport et notamment par le biais de l'émission Sportiplex qui a été fondée en 1998 et de nombreux jeunes l'ont côtoyé. Et aujourd'hui, ils sont toujours jeunes, ils sont toujours beaux. Certains en sont avec nous et tiennent à lui rendre hommage pour l'accompagnement qu'il leur a donné. Et Édouard Savard, je crois, est en ligne avec nous. Édouard, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Édouard.
Bonsoir Fabrice.
Qui vous fait coucou à travers le micro, mais vous ne le voyez pas, Édouard. C'est vrai que vous nous entendez parler de Jacky Husson. On imagine que, comme tous les jeunes de votre génération de Sportiplex, vous avez beaucoup de souvenirs de Jacky Husson, de ce qu'il a fait pour l'émission et de la manière dont il vous a accompagné, Édouard.
Ah ben c'est totalement vrai. Déjà, c'est vrai que c'est assez étrange de parler de Jacky au passé. De toute façon, il restera toujours dans nos souvenirs. Et c'est vrai que moi, l'un des premiers souvenirs, parce que voilà, ça commence à faire quelques années, hein, le Sportiplex, c'est son sourire, son vélo. Il était toujours présent pour nous, pour les jeunes. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas beaucoup de majeurs et il fallait quand même que quelqu'un tienne la baraque. Hein. Il y avait Hubert Gros, bien sûr, mais Jacky était présent. Et il avait cette capacité de nous former. Je me souviens notamment d'une jeune de Sportiplex, Amandine Caroui, qui a eu ses premières expériences de montage sur bande. À l'époque, c'était des bandes magnétiques, il n'y avait pas l'ordinateur. Et c'est Jacky qui avait fait la formation. Il nous accompagnait aussi pour tout ce qui était reportage, pour nous donner des conseils comment faire les interviews. Et bien sûr la technique, parce que ça a été aussi un grand technicien de RCF. Et je me souviens, une fois, il m'avait dépanné, je pouvais pas faire le décrochage, et il était venu faire une petite demi-heure d'antenne pour le Sportiflex. Et c'est vrai que le Sportiflex lui doit beaucoup.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il était très à l'aise avec les jeunes.
Ah oui. C'est, même si on avait peut-être 30, 40 ans d'écart, je ne sais plus, il était jeune, il était présent, et c'est vrai que le duo père Bernard Gouraud et Jacky Husson était vraiment un très bon duo pour nous, et il nous accompagnait vraiment. Jacky était présent au début de l'émission. Moi, je suis arrivé en 2000 dans l'émission, il était toujours là. Je l'ai connu avant parce que je fréquentais un peu la radio. Mais il a toujours été présent et toujours là pour nous soutenir et aussi nous défendre.
Alors, ce témoignage est bien sûr important. Une question, Alexis, encore peut-être à,
c'est vrai, j'allais dire, Édouard, vous partagez beaucoup de souvenirs que vous avez justement vécu avec Jacky Husson. On comprend qu'il était un homme très polyvalent et on imagine que encore aujourd'hui, dans la manière dont vous en parlez, etc., il a laissé une trace indélébile dans votre mémoire et dans celle de tous les jeunes qui l'ont connu à travers l'émission Sportiplex.
Oui, ah bah, totalement. Et moi, vraiment, ce que je me souviens, pour ceux qui l'ont connu, c'est son sourire, sa bonne humeur, sa joie de vivre. Et c'est vrai que j'ai appris son décès il y a deux jours par Arnaud Valadon, je crois qu'il parlera, qui dira quelques mots sur votre antenne.
Qu'on retrouvera dans quelques minutes, oui.
Et c'est vrai que quand il m'a dit, j'ai envoyé un message, un monument de RCF nous a quittés.
Et il faut dire aussi, vous avez bien cerné ce sourire, parce que s'il y avait du monde énormément de monde dans l'église de Saint-Brice-Courcelles tout à l'heure. C'est parce que sans doute qu'avec les gens de toute génération, ils savaient les aborder, se rendre, comme on dit, approchables, et qu'il était, par sa générosité, sa solidarité, puis son esprit d'ouverture, vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel.
Vous m'enlevez les mots de la bouche, Jean-Pierre. C'est exactement ça.
En tout cas, un grand merci, Edouard Savoir, d'avoir pris ces quelques minutes pour témoigner de votre affection pour Jacky Husson. Et puis, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu dans Sportiplex quand vous voulez, Edouard. Vous savez que RCF est aussi un petit peu votre maison, comme tous les jeunes qui ont fréquenté cette émission.
Avec grand plaisir.
D'ailleurs, vous êtes invité le 13 juin, bien sûr, Edouard. Nous faisons une petite fête, d'ailleurs, qui sera ouverte très largement à beaucoup de monde. Et donc, c'est à 18h, une fête de fin d'année. Venez, Edouard, avec tous les anciens jeunes. Mais vous restez particulièrement jeune. Venez à cette rencontre, Alexis. Hein.
Tout à fait. Avec la femme, les enfants, toute la famille est la bienvenue, Edouard.
Oui, Edouard, on compte sur vous.
Ça marche.
Et puis on va retrouver nous un autre témoignage, celui d'Arnaud Valadon qui est en ligne avec nous, que l'on a bien connu, nos auditeurs ici sur RCF France-Ardenne. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Arnaud.
Alors c'est vrai Arnaud, comme on était en train d'en parler avec Edouard il y a quelques instants, tu fais aussi partie de cette génération qui a été marquée par Jacky Husson avec tout ce qu'il a apporté à Sportiplex.
En fait, moi, je l'ai connu, il n'était plus encore très présent à Sportiplex, Jacky Husson, mais il passait toujours, aussi bien le samedi quand c'était Sportiplex, qu'en semaine à RCF pour toujours prendre des nouvelles. D'ailleurs, dans la fameuse bannette où on recevait notre courrier, il y avait toujours l'étiquette Jacky Husson qui était présente. Et c'est vrai que j'écoutais Edouard avant, son sourire évidemment, et puis il avait toujours aussi sa banane, sa casquette et un petit peu son survêtement. C'était resté presque un éternel jeune, voilà, même voilà, un amoureux de sport, et il avait voilà toujours un petit peu cette tenue, évidemment ce grand sourire, cette bienveillance. Il venait toujours prendre des nouvelles, et c'est vrai que je l'ai revu aussi un petit peu quand j'allais à Saint-Brice-Courcelles au handball, où il était très impliqué aussi, et quelque part c'était aussi un petit peu le fil directeur de sa vie, la transmission, parce qu'évidemment dans un club de handball on transmet aux plus jeunes, il y a tout un travail intergénérationnel hein, dans les clubs de sport, et RCF aussi à travers évidemment Sportiplex, et puis aujourd'hui aussi des émissions comme Bulles étudiantes en partenariat avec l'ICP. Donc il y avait à la fois dans le handball, qui était son autre grande passion, qui lui a pris énormément de temps dans sa vie, et la radio RCF, il y avait vraiment ce fil conducteur commun. Et c'est vrai que c'était quand j'ai appris ça aussi, son décès, c'était par un message du club de Saint-Brice-Courcelles, bah, j'ai évidemment été attristé, parce que c'était une personnalité marquante. Et puis je suis allé, vous savez, il y a Jean-Pierre, Alexis, quelques sites internet qui racontent les histoires des radios rémoises, et il y en a un, bon, je peux le citer, c'est s'entendre-radio.free.fr, et on trouve une photo de Jacky Husson qui est à la manette, à la technique, là où Fabrice Géronet y est actuellement. C'était certes pas rue du Lieutenant Erduin, mais c'était rue Brûlée, et on voit il pose à côté du président Pierre Burguet, aussi de François Maviel, qui était producteur d'une émission, donc on le voit voilà sur une photo qui était prise en 96. Je suis pas sûr que, je crois que c'était bien rebrûlé encore. On n'avait pas, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre.
Absolument, c'est en 1998 que nous avons déménagé pour venir à la maison Saint-Sixte. Vous avez raison, Arnaud. Et puis vous l'avez bien rappelé, le sport, oui, mais aussi il rendait d'autres services. Il avait fait des reportages même dans la vie diocésaine, et il allait bien à l'extérieur. Hein. Mais merci Arnaud de ton témoignage.
Merci
parce
Jean-Pierre.
Que tu sais qu'ici, comme pour Edouard Savard, Cyril de la Morinerie et toute la bande, vous avez un rond de serviette, que le 13 juin, oui. Si vous êtes disponible, vous êtes invité pour une fête de la radio.
Et ça ce serait... que je voulais rajouter, Jean-Pierre, oui. C'est qu'il y a un côté presque père fondateur de Jacky Husson, évidemment avec le père Gouraud, avec Pierre Burguet, mais toutes ces personnes-là qui étaient vraiment au début, au balbutiement quelque part, Jean-Pierre aussi, tu en faisais partie, mais voilà, de ces personnes qui ont vraiment accompagné la création de la radio, qui évidemment est aujourd'hui stabilisée,
oui,
qui s'est stabilisée dans
Arnaud.
Les années 2000, mais il ne faut pas oublier ces années 90 qui ont été vraiment les prémices Radio Fourvière et puis qui est devenu RCF.
Mais Arnaud, voilà, tout le monde disparaît, donc maintenant je suis sur la liste. Hein, bon.
Encore un peu d'années, Jean-Pierre.
Oui, j'ai encore un petit battement, oui. Merci en tout cas, Arnaud, d'avoir été avec nous. Si j'ai encore 20 secondes, même si je vais déborder un petit peu le 18h30, il faut signaler aussi que que vous avez évoqué, tu as évoqué Arnaud, la rue brûlée. Eh bien, moi, j'ai une anecdote à donner. C'est que pendant 2-3 ans, même plus, il y avait des directs le matin à 7h où nous faisions des petits journaux d'information qui n'avaient pas eu la prétention de l'organisation d'aujourd'hui, puisque nous étions en 1995, dans ces années-là, et la radio ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Nous allions tous les matins et nous étions avec Jackie Husson qui venait en vélo tous les matins à 7h en direct, avec Jean-Pierre Flatté, qui était le responsable du Secours catholique, qui venait lui aussi en vélo. Lui aussi, il est décédé. Et nous allions boire un petit café à côté de la rue Brûlée. Et il y avait un surnom, puisqu'à l'époque, c'était Jean Falala et Jean-Louis Schneider qui étaient maire et premier adjoint. Le barman disait toujours « Ah, voilà, Jean Falala et Jean-Louis Schneider » en parlant de Jackie Husson et de Jean-Pierre Flatté. Voilà pour l'anecdote, Arnaud. Voilà pour l'anecdote, Alexis. Merci, Arnaud. À très bientôt. Merci, il est 18h30. C'est le journal régional présenté en direct avec Alexis Claudrette ce soir.
Les titres de ce mercredi 17 avril, les élus de la région Grand Est étaient lundi dernier dans le vignoble champenois, objectif de appréhender les nouveaux enjeux de la filière viticole. Zoom sur le pavé rémois, une nouvelle maison d'édition régionale indépendante créée par Margot Rebel.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Selon les statistiques fournies par le SNE, le syndicat national de l'édition, il existe environ 10 000 maisons d'édition en France. Plus de 50% d'entre elles sont installées en région parisienne, les autres en province. Et depuis peu, une petite nouvelle s'est fait une place dans le paysage, le pavé rémois. Une maison d'édition indépendante, régionale, basée à Reims, créée par Margot Rebel, qui en est aussi la directrice et qui revient au micro de RCF Reims-Ardennes sur l'origine de ce nom.
Parce que le pavé rémois, c'est donc l'objet livre, c'est un objet qui est esthétique, un peu atypique, et c'est aussi quelque chose qu'on a envie de déguster, ça fait référence au biscuit rose. Et le pavé rémois, c'est aussi le pavé de la rue, celui qu'on peut trouver dans la rue, donc c'est au cœur de la ville, parce que j'ai vraiment envie de valoriser les échanges humains, les rencontres, et que le livre soit vraiment un prétexte à partager des valeurs communes et à se rencontrer, voilà.
Avec le pavé rémois, Margot Rebel souhaite valoriser le patrimoine culturel, artistique et littéraire de Champagne-Ardenne. Et même avec une bonne connaissance du territoire, se lancer dans l'édition indépendante reste un sacré challenge.
Oui, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a vraiment besoin de renouveler, de modifier un petit peu les pratiques éditoriales actuelles, puisque, comme vous savez, il y a beaucoup de maisons d'édition qui font partie de groupes d'édition comme Hachette ou Editis. Et l'édition indépendante, ça peut être une solution pour beaucoup de problèmes éditoriales, comme par exemple la surproduction de livres, des problèmes plus écologiques, mais aussi sociaux, parce que on a une détérioration vraiment de la qualité de la relation entre lecteurs, éditeurs et éditeurs-auteurs surtout. Donc voilà, ça peut être une solution. Mais par contre, on n'est pas tous en voie de disparition. On existe quand même et chaque année, il y a quand même beaucoup de maisons d'édition indépendantes qui naissent et en région, pas que en Île-de-France.
Une maison d'édition nouvelle qui doit prendre en compte les problématiques actuelles comme la dimension écologique.
On peut très bien avoir des pratiques éditoriales écologiques en choisissant un papier avec des labels. Donc, je pense notamment au label Imprime Vert ou PEFC. Donc, une imprimerie qui s'engage à respecter ces labels. On choisit aussi plutôt du local pour privilégier un circuit court et réduire un petit peu le bilan carbone. Et puis, écologique aussi dans le sens où on s'engage à ne pas surproduire de livres, à ne pas réimprimer plus qu'il ne faut d'exemplaires. Et pour ça, on fait des prévisionnels. On essaie d'imprimer ce qu'on appelle à la demande. Et aussi, moi, à titre personnel, je m'engage à ne jamais mettre un livre au pilon, c'est-à-dire à ne jamais détruire de livres. Tous les livres sont réutilisés d'une façon ou d'une autre.
Margot Rebelle au micro de RCF France Ardennes, le premier livre édité par Le Pavé Rémois et Regrets de Gladys Schaeffer, déjà disponible dans les bonnes librairies près de chez vous. Jean-Pierre, si je vous parle du 9 juin prochain, le 9 juin 2024, est-ce que vous avez déjà coché la date dans votre agenda?
Alors, le 9 juin prochain, eh bien, évidemment, ce sont les élections européennes.
Effectivement, et si l'on vous parle de cette date dès aujourd'hui, c'est parce que les Français en âge de voter et les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne résidant en France seront appelés à voter pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette inscription peut être réalisée en ligne jusqu'au 1er mai ou en mairie jusqu'au 3 mai prochain. Attention, on rentre, j'allais dire, dans le Money Time. Ce sont les derniers jours si vous voulez participer à cette élection et faire votre devoir de citoyen. Franck Leroy, président de la région Grand Est, et les élus du Conseil régional ont passé la journée de lundi dans le vignoble champenois. Vous en avez parlé d'ailleurs sur RCF. Pour Franck Leroy, l'objectif de ces rencontres était de mieux appréhender les nouveaux enjeux de la filière et notamment la certification viticulture durable en Champagne.
C'est tout simplement de réduire l'empreinte carbone de la filière Champagne et c'est d'adopter des modes culturaux qui soient plus en adéquation avec les nécessités de protéger l'environnement, la biodiversité. Donc pour ça, c'est évidemment toute une série de démarches qui ont été élaborées par le comité Champagne, qui sont plus ambitieuses que le label HVE, haute valeur environnementale, et qui visent à emmener petit à petit toutes les exploitations de Champagne vers un mode d'exploitation plus compatible avec les exigences du développement durable. C'est la profession qu'elle a pris conscience d'ailleurs toute seule. Elle fait des efforts assez remarquables en la matière et le rôle de la région Grand Est, c'est notamment de les accompagner à chaque fois qu'on peut accompagner, notamment les plus petits exploitants qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les plus gros pour engager ce genre de démarche et obtenir ces labels.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Ces rencontres à Chouilly, Épernay et Aïe-Champagne lundi dernier ont permis également d'alimenter le nouveau contrat de filière viticulture 2024-2027 en cours de construction avec les organismes interprofessionnels du Grand Est. Sport, demi-finale retour des playoffs de Liga de volley ce soir à 20h pour Chaumont qui se déplacera à Tours. Battus 3-7-2 sur leur parquet dimanche, les Haut-Marnais, déjà dos au mur, n'ont plus d'autre choix que de s'imposer pour espérer continuer leur route vers la finale et potentiellement un titre de champion de France. Et une très bonne nouvelle, une très bonne performance individuelle à souligner. Elle est encore signée par une Ardennaise. La Soudanaise Manon Herbulo, 17 ans, a obtenu hier en fin de journée sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 lors du tournoi de qualification de Rio en tir à la carabine 10 mètres avec 228,1 points. Les quotas n'étant pas nominatifs, c'est maintenant à la Fédération française de trancher sur la participation de cette jeune fille au JO pour représenter le drapeau tricolore. A priori, il n'y a pas de raison qu'elle n'y participe pas. Réponse le 1er juin, Manon Herbulo qui sera prochainement avec nous dans le Sportiplex, le mag, pour nous raconter son parcours tout bonnement exceptionnel. Elle visait de participer aux Jeux Olympiques en 2028. À seulement 17 ans, elle vient de les avoir le 31 mars dernier. Elle va participer, Jean-Pierre, au JO. C'est une histoire incroyable et une belle histoire pour cette Soudanaise, comme quoi on a des champions sur notre territoire.
Bravo, bravo.
Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
18h38, Jean-Pierre, on vous a laissé souffler un petit peu, on va vous retrouver avec deux invités, deux nouvelles invitées qui sont installées dans nos studios. Sandrine Lebec, directrice de la maîtrise de la cathédrale, et Laetitia Sten, son assistante, elles sont sur le départ pour Lourdes.
Sandrine Lebec, bonjour.
Bonjour.
Laetitia Sten, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, vous êtes sur le point de partir là?
Alors, dans les starting blocks là.
Alors, vous emmenez à peu près combien de maîtrisiens avec vous?
44 élèves. 44 élèves et 6 accompagnateurs.
Alors, il y a la maîtrise, il y a aussi les jeunes de la pré-maîtrise.
Alors, les jeunes de la pré-maîtrise ne font pas partie du voyage. Ce sont uniquement les élèves de 4e et 3e qui font la tournée. Les plus jeunes ont d'autres projets tout au long de l'année.
Alors, Sandrine Lebec, vous allez aller où? Alors, vous allez à Lourdes et puis vous allez, bien sûr, avoir un certain nombre de concerts.
Nous sommes hébergés à Lourdes. Et nous allons rayonner dans la région. Le jeudi, nous restons sur Lourdes. Les enfants vont découvrir les sanctuaires. On va rester donc sur Lourdes. Mais nous allons aussi aller au Pic du Midi, nous allons donner des concerts dans la région, Bagnères de Bigorre.
Et au programme, alors, des musiciens que vous connaissez déjà, un répertoire que vous avez déjà?
Ah oui, oui, oui. C'est grosso modo le répertoire du disque que nous sortirons cet automne. Et notre album qui s'appelle L'Ange au sourire, que nous avons enregistré en janvier et en février.
Vous faites une promesse, hein, dès que ça sort.
Ah ben, on revient.
Exclusivité RCF,
ah ben,
un petit peu.
Hein.
On le diffusera. Hein,
ouais, bah, oui, voilà. Oui. Sortie prévue au mois d'octobre.
Sortie prévue en octobre. Là, on est dans les starting blocks, nous aussi, pour octobre.
Voilà.
Et donc, c'est une aventure, d'ailleurs, on reverra avec Laetitia Stens également. Il y a l'aventure musicale avec vous, de qualité, exceptionnelle. Moi, je vous encourage et je vous applaudis à chaque fois pour la qualité de ce que vous produisez.
Merci.
Mais il y a aussi cette aventure humaine pour des jeunes qui, au lieu de rester chez eux, bon, parfois, il m'est arrivé moi-même dans ma jeunesse de rester chez moi, mais pourtant, d'aller à l'extérieur, de vivre une expérience de groupe, la musique sert de support, mais il y a aussi toute cette expérience.
Et toute cette aventure humaine, parce que ça resserre les liens. Et une tournée, c'est un moment où effectivement on partage des moments de vie en dehors de nos répétitions habituelles. On se promène, on visite et les enfants nous voient au quotidien, dans notre vie de tous les jours, pratiquement, même pratiquement en pyjama au matin, quand on va les réveiller. Ils nous voient autrement et ça rapproche. C'est très fédérateur et je trouve même qu'il faudrait faire ce genre de tournée plus tôt aussi.
Laetitia, peut-être que l'après-maîtrise un jour, avec les plus jeunes, vous allez vous lancer aussi dans cette aventure.
Et alors, nous sommes déjà partis, nous avons fait un échange avec une maîtrise de Colmar l'année dernière. Donc c'était l'occasion pour les enfants, voilà, d'expérimenter la tournée. C'était la classe de CM1, donc qui est partie en quelques jours pour expérimenter des concerts en commun et la vie en famille d'accueil chez les choristes de Colmar.
Alors évidemment, l'endroit n'est pas choisi au hasard. Pour le départ d'aujourd'hui, c'est Lourdes,
oui.
Avec bien sûr les sanctuaires, vous les avez évoqués,
oui.
Avec Notre-Dame, avec la Vierge et la maîtrise de Notre-Dame.
Hein. Tout à fait.
Et donc ça n'est pas non plus anodin de choisir ce lieu.
Non, ce n'est pas anodin et c'est un lieu qui me touche, où je me sens proche. Et puis toute ma famille est originaire du Sud-Ouest aussi. Donc voilà, je me rapproche et puis pour nous, c'est toujours très intéressant et très fort de vivre la messe internationale. Donc nous chanterons à la messe internationale de dimanche 21 avril à 9h30. Et là, on chante dans 6 langues.
Ça, c'est exceptionnel pour les jeunes, vous leur faites vivre. Et vous allez aussi, vous avez déjà participé, Laetitia Stens, à ce genre d'aventure. Mais alors, on peut quand même vous interroger, parce que vous avez des jeunes, ils sont 44.
Mmh.
C'est déjà un nombre important. Mmh. Mais nous sommes en cette période d'année où beaucoup de parents ou de grands-parents s'interrogent sur les inscriptions dans les établissements scolaires. Et c'est peut-être le moment pour eux de se décider. Alors, est-ce que aujourd'hui vous avez des besoins particuliers? Est-ce que, comme on dit, à l'armée en quelque sorte, on recrute? Est-ce que Laetitia Stens, Sandrine Lebec, vous recrutez?
Alors oui, évidemment, on recrute. Alors je pense que je vais quand même plus laisser Sandrine parler du recrutement parce que au niveau de l'école élémentaire, c'est un peu différent. Les classes sont déjà pleines. Et ce ne sont pas des classes entièrement maîtrisiennes. Les enfants sont maîtrisiens ou non maîtrisiens, mais dans une même classe. Donc c'est un peu différent. Et je pense que là, l'impératif de recrutement concerne plus spécifiquement le collège.
Alors Sandrine, où en est-on?
Eh bien écoutez, il reste quelques places en classe de 6e.
Comment fait-on alors si on veut aller à la maîtrise?
Alors si on veut aller à la maîtrise, il faut contacter...
Il y a un processus particulier pour le chant.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut passer une audition.
Mais passe une audition.
Oui, on passe une audition, mais elle est assez à l'enfant.
C'est pas un examen, vous ne demandez pas des qualités exceptionnelles.
Bah, il faut quand même savoir chanter. Il faut chanter juste.
Il faut aimer chanter.
Oui, il faut aimer. Ça, c'est là. Il faut de l'enthousiasme et de la motivation. C'est la principale qualité, parce que les enfants qui arrivent en 6e, voire 5e, on arrive dans une classe où... La plupart sont là déjà depuis CE1. Donc, ils ont déjà un niveau vocal et des habitudes de chanteur. Donc, s'il n'y a pas la motivation, c'est difficile de rattraper le niveau des autres. Donc, forcément, c'est toujours mieux si l'enfant joue déjà d'un instrument, a quelques notions de musique. Mais s'il a une belle voix, mais qu'il n'a aucune notion de musique, on va le prendre, bien entendu. Parce que la motivation, ça fait tout.
Alors, sur le plan pratique, ils peuvent s'adresser directement aujourd'hui, par exemple à la maîtrise.
Voilà, au secrétariat, de la,
secrétariat de la maîtrise. Ils trouvent les coordonnées sur Internet.
Aujourd'hui, il n'y a aucun problème.
Trouve, et puis, ils demandent rendez-vous. Et puis, il y a une petite audition.
Voilà.
Voilà,
L'enfant doit préparer un morceau de morceau, un chant.
Il y a quand même une demande.
Oui, oui, il y a une demande. L'enfant doit préparer un chant qu'il aime.
Là,
sérieusement, il doit le préparer sérieusement.
Voilà. C'est quand même quelque chose. On peut dire que c'est un petit examen. Si
oui,
on peut le dire comme ça.
Oui, c'est normal parce que le jeune doit se rendre compte que on n'y rentre pas par hasard. Il y a une vraie démarche. Et ensuite, une fois qu'on est dans l'institution, bah, il y a quand même un engagement sur le long terme.
Oui. Oui, Laetitia.
Oui, j'insisterai sur l'engagement des enfants, mais également des familles, parce que les enfants sont pas toujours autonomes pour se déplacer. Ça nécessite un engagement de la famille pour pouvoir assister aux offices. Il y a quand même
Souvent le week-end, souvent le dimanche, évidemment.
C'est ça. Voilà. Les offices le dimanche, c'est environ un par mois, plus les grandes fêtes. Et puis, il y a tous les concerts. Parfois, ça nécessite aussi de rester le soir, même si ce sont des enfants qui sont en horaire aménagé.
Mais entre nous, quand on regarde avec le recul, quelle expérience, quelles aventures. Vous êtes allé au Japon récemment.
Non. Ah oui, on y va l'année prochaine.
L'année prochaine.
Moi, j'ai fait le voyage préparatoire.
Le voyage préparatoire. Voilà. Mais je veux dire, vous avez au quotidien, dans l'année, des aventures exceptionnelles que on ne fait pas si on n'est pas chanteur.
C'est sûr.
Ah oui, ça donne des opportunités vraiment extraordinaires.
C'est ouvrir à cette jeunesse qui n'en aurait pas forcément
la connaissance,
une ouverture sur la musique, une ouverture humaine, un développement personnel, et je trouve que ça construit énormément.
Merci Sandrine Lebec, merci Laetitia Stens, bon voyage, et puis on vous retrouvera en direct jeudi de Lourdes, et puis vendredi.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Avec la hâte évidemment de suivre cet itinéraire 18h46 sur RCF.
Le 18-19 sur RCF.
C'est le magazine régional RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, et tout de suite on va retrouver Maxime Cachard, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Saint-Jean 23 de Reims, avec peut-être d'autres membres de l'équipe éducative. Maxime Cachard, bonjour.
Bonsoir.
Pour parler d'une initiative, une box pour un étudiant, ça fait déjà quelques années maintenant que ce projet est en place au lycée Saint-Jean 23 de Reims. De quoi s'agit-il, pour rappeler le projet en quelques mots, Maxime Cachard?
Merci à vous de nous recevoir. Donc, il s'agit d'un projet de solidarité que nous menons avec l'association Agorae. Il s'agit pour les lycéens du lycée Saint-Jean 23 de constituer des box, c'est-à-dire des cartons avec différents produits qui sont à destination des étudiants en situation de précarité de la faculté de Reims.
Donc évidemment, vous en tant que professeur au lycée avec d'autres membres de l'équipe éducative, vous êtes mobilisés, mais ce sont surtout les jeunes, les lycéens de Saint-Jean 23 qui, pendant quelques semaines, là, ont mis le pied à l'étrier, j'allais dire.
C'est ça. Pendant à peu près 3 semaines, 1 mois, tous les lycéens du lycée, c'est-à-dire les secondes, premières, terminales, se sont investis par groupe de 3, que ce soit dans les groupes, dans les cours d'EMC, d'éducation civique, ou de sciences économiques et sociales, pour mener à bien ce projet.
Et donc les box, elles ont un contenu bien défini finalement pour répondre, j'allais dire, à la demande étudiante.
C'est ça. Les box contiennent 9 produits, donc 3 produits d'hygiène, à savoir un gel douche, un shampoing, un dentifrice, 3 produits pour constituer un repas, un paquet de pâtes, une boîte de conserve, des compotes à boire, et puis 3 produits petit déjeuner, que ce soit de la confiture, des céréales ou des biscuits.
Et donc, à l'heure où l'on se parle, dans les minutes peut-être qui ont précédé cette interview, peut-être qui vont suivre également, c'est vraiment la distribution des box aux étudiants. C'est là, c'est aujourd'hui, ça vient d'avoir lieu vers 18h.
Voilà, donc la distribution va se faire dans quelques jours. Là, on vient de les déposer à l'épicerie sociale et solidaire. Si vous voulez, je peux vous passer le président qui est juste à côté de moi.
Eh bien, allez, quelques mots très rapidement avec le président.
Bonjour à vous. Je suis très content de pouvoir parler de ce projet. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années et on est très fiers d'avoir ce genre de projet à l'Agorae. Je pense particulièrement aux étudiants. J'étais déjà présent l'année dernière et j'ai pu voir des étudiants qui étaient très heureux d'avoir ce genre d'initiative, et ça permet d'être très complémentaire avec le projet de l'Agorae. Donc vraiment, j'espère que c'est un projet qui va pouvoir durer dans le temps et qui peut, si je si je peux l'espérer, se développer au maximum.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet quelque part qui est fait par des générations qui sont presque les mêmes. Quand on parle d'un élève en seconde, en première, en terminale, on se sent assez proche de l'étudiant qui est à la faculté aussi.
C'est ça, l'étudiant qui est actuellement en terminale, il a déjà sûrement fait ses demandes sur Parcoursup, voire même c'est déjà fini. Dans quelques mois, il est à l'université, il va, j'espère pas connaître ce genre de situation, mais ça permet de sensibiliser les étudiants du lycée à ce genre de précarité étudiante et essayer de montrer une certaine solidarité.
Et donc ce sont combien d'étudiants qui vont recevoir ces box? On a une idée du nombre d'étudiants qui vont avoir cette chance cette année?
Alors 186 box ont été faites, donc ça va aider 186 étudiants. Et à l'intérieur des box, j'allais oublier, la présence du petit mot de soutien, qui est vraiment important parce qu'on a des étudiants qui sont en situation de précarité, peut-être d'isolement social, etc., d'éloignement familial. Et le petit mot de soutien leur fait vraiment un grand plaisir.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, Maxime Cachard, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Saint-Jean 23 de Reims, d'avoir été en direct avec nous, avec le président de l'association Agorae. On vous souhaite une très belle distribution d'ici quelques jours et encore un grand bravo pour cette initiative positive.
Merci à vous.
Merci à vous.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h51 sur RCF, on est comme ça, on se passe le relais, ça nous permet de souffler avec Jean-Pierre Benoît qui est toujours avec nous. Et on termine cette émission, Jean-Pierre, si vous le voulez bien, avec vous.
Oui, parce que on va évoquer le père Louis Lochet, bien connu dans le diocèse. Il est décédé il y a bien sûr une vingtaine d'années. Il était dans le sud de la France. Il est interrogé.
Et pour en parler, justement.
Oui, il faut qu'on aille vite, je pense.
C'est le père Claude Collignon que vous allez interroger tout de suite, Jean-Pierre.
Avec nous aujourd'hui le père Claude Collignon. Claude Collignon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous parce que vous nous annoncez des conférences à propos du père Louis Lochet, bien connu dans notre diocèse. Deux conférences qui ont lieu le jeudi 25 avril à 20h à la maison Jules Bierry et le lendemain, le vendredi 26 avril à 20h à la maison Notre-Dame à Reims, rue Guillaume de Machaut. Alors Claude Collignon, vous êtes un habitué, quand vous venez nous parler, vous parlez souvent du père Louis Lochet. Le père Louis Lochet vous a impressionné, vous l'avez connu de près lorsqu'il était à Reims. Rappelez-nous très très rapidement son itinéraire. C'est un pur produit rémois.
Alors le père Lochet est d'une famille rémoise, il est né à côté de la cathédrale, de la famille Lochet. Il a vécu, on va dire, jusqu'à 60 ans pratiquement à Reims. Ce qui est quand même pas mal.
C'était pratiquement tout son ministère.
Une grande partie de son ministère, puisqu'après, il est parti en Afrique.
Il est parti en Afrique.
Au Burundi. Mais dans son ministère, il y a eu le fait qu'il a été professeur au séminaire, professeur de théologie. Ensuite, il a été curé à Paroisse Saint-Louis. Ensuite, il a été mis en disposition de tous les groupes qui avaient besoin d'un approfondissement. Alors, il a fait ça dans le diocèse, mais il a fait ça partout, y compris non seulement en France, mais en Asie, en Afrique. Je crois qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il n'est jamais allé.
Et puis il est revenu dans le sud de la France, à Châteauneuf de Galor, pour un foyer de charité. Il est décédé en 2002, il y a une vingtaine d'années. Vous avez proposé des intervenants un peu différents. Le père Arnaud Duic, le père Jean-Paul Drez, et puis vous-même. Et puis bien sûr, celle qu'on connaît bien, qu'on invite régulièrement, Monique Mazzoleni, qui a été proche du père Louis Lochet et qui va intervenir. Chacun va prendre un angle particulier de son itinéraire?
Alors c'est ce qu'on veut faire. Jusqu'ici, on insistait beaucoup sur la biographie du père Lochet. On l'a dans la tête, mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans sa pensée. Alors comment on va faire? Il y a Arnaud Duic, donc, que nous connaissons, hein, qui est un prêtre de, je ne sais pas très bien, mais 35-36 ans. Il est en études à Paris pour continuer sa théologie. Et il a pris justement comme sujet la théologie de l'Église dans le père Lochet. C'est assez intéressant qu'un universitaire approfondisse cela.
Ça veut dire aussi que cette pensée du père Lochet, elle n'est pas datée par une époque conciliaire, mais elle a, dans l'actualité d'aujourd'hui et même de demain, une réalité intéressante qui permet d'approfondir à la fois la foi, les mystères de l'Église, etc. etc. Donc c'est d'actualité, c'est pas, on ne regarde pas dans le rétroviseur.
Alors, c'est assez intéressant quand on lit le père Lochet. D'une part, il est quand même relativement typé par rapport à l'époque dans laquelle il a vécu. il utilise des termes qu'on n'utiliserait plus, bon, etc. Il est marqué, entre autres, par exemple, par la présence du marxisme. Nous, on l'a un peu oublié. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Mais par contre, il a approfondi, et d'une façon adaptée à tous ses publics, il a approfondi ce qu'on appelle le mystère de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église ? À son époque, l'Église, c'était une institution. Bon, elle avait une possibilité d'avoir de la puissance. On lui a contesté. Bon, on a découvert progressivement, grâce à d'autres que le Père Locher, bien sûr, que l'Église, c'était un, je vais utiliser les mots du Père Locher, un mystère d'amour, auquel mystère on participe, nous autres, baptisés.
Et donc, cette pensée, elle va se développer dans la conférence avec le père Arnaud Duyck, mais aussi avec le père Jean-Paul Drèze, qui, lui, a un regard un petit peu différent.
Alors, Jean-Paul Drèze a été très marqué par sa lecture d'un livre du père Locher qui s'appelle « L'évangile de la liberté ». C'est déjà un livre un peu ancien, qui n'est pas réédité, mais on va essayer de le faire, de telle façon qu'il nous découvre, dans ce livre-là, le père Locher, que le Christ nous libère à tous les niveaux, au niveau moral, au niveau institutionnel, même au niveau spirituel. Et le père Jean-Paul Drèze veut nous expliquer, à travers la pensée du père Locher, que l'homme chrétien, c'est un homme libre, qui n'est pas soumis à un certain nombre de lois, etc., mais qu'il est renvoyé à sa relation à Dieu et au Christ.
Alors avant de vous retrouver vous-même, puisque vous intervenez, on terminera avec vous, Père Claude Collignon, il y a la présence de Monique Mazzoleni, qui a été proche du Père Locher, qui l'a vu en particulier en Afrique, qui l'a connue aussi à Châteauneuf de Galore. Elle va intervenir dans quel sens ? Elle a déjà écrit beaucoup sur le Père Locher.
Alors d'une part, elle a vécu 11 ans au Burundi, dans l'animation du foyer de charité de là-bas, donc elle a bien connu le Père Locher. C'est une historienne. Elle s'est efforcée de trouver toutes les sources qu'on peut avoir sur le Père Locher, tous ses écrits, et Dieu sait s'il en a, on n'a pas tout découvert. Ses livres, je crois qu'il a écrit 12 livres, et puis il y a tous les articles qu'il a donnés dans tous les sens. Alors elle va intervenir en approfondissant encore un peu plus le sens de la vie du Père Locher dans sa relation personnelle à son baptême et à son ordination. Et c'est ce qu'elle réfléchit sous l'angle « Le Père Locher a vécu la croix ».
Ça, les racines de la spiritualité du Père Locher, vécu la croix parce qu'il a eu des difficultés médicales. Enfin,
à la fin de sa vie, il a vécu 7 ans complètement allongé dans son lit, il ne pouvait plus bouger.
Donc c'est l'occasion d'en savoir un peu plus. Et puis avec vous, Père Claude Collignon, vous allez intervenir dans quelle direction ?
Alors, nous avons sorti un livre du Père Locher qui contient 2 petits fascicules qu'il a écrits en 1950, donc c'est ancien, et qui sont comme le résumé à l'avance de sa pensée et de son action. Alors, on s'est dit que ça pouvait avoir un impact sur notre réflexion, d'autant que ce qu'il dit dans ces 2 fascicules, eh bien, on le retrouve constamment à toutes les étapes de sa réflexion et de sa vie.
Le titre « Rien n'est perdu pour Dieu », voilà, avec un sous-titre « Une espérance pour l'Église du XXIe siècle » aux éditions Salvator, Louis Locher, avec une préface de Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Alors, il faut rappeler, donc, Claude Collignon, que celles et ceux qui viennent, ils vont approfondir tout ça. Parce que nous, en 9 minutes, sur RCF, on ne fait donner que des grandes lignes. On a compris que c'était un théologien enraciné dans une histoire, celle du diocèse de Reims, et qui approfondissait les mystères de l'Église, mystères d'amour de l'Église. Oui. Bon, alors là, il faut se creuser un petit peu la tête. Mais cet effort, finalement, il est compliqué, mais on a l'impression quand même qu'il a une forme de simplicité. Que Louis Locher, il est compliqué dans sa théologie, peut-être, mais c'est accessible, c'est simple.
Alors c'est accessible parce qu'il sait se mettre à la portée de son public. Ça, c'est assez intéressant. Il s'exprimait avec des ouvriers, des militants, comme on le disait autrefois, avec des prêtres, avec des religieux, et chacun y trouvait sa nourriture. Hier, j'étais avec une religieuse, elle me disait « Je lis tous les soirs une page du Père Locher, ça me rend heureuse, parce que je comprends bien. » il faut le faire.
Merci Père Conignon. On rappelle les rendez-vous le jeudi 25 avril à 20h à Charleville-Mézières à la maison Jules Bierry et le lendemain, le vendredi 26 avril à 20h à la maison Notre-Dame à Reims. Merci Claude Conignon, puis promettez-nous de revenir.
Merci Jean-Pierre, et bien une autre fois.
Bonne journée, au revoir.
Et encore des beaux rendez-vous de noter dans l'agenda. C'est vrai qu'avec le soleil qui se couche assez tard, on est tenté de souhaiter une bonne journée, Jean-Pierre.
Ah oui, on est tenté de souhaiter une bonne journée.
Mais on va plutôt souhaiter une bonne soirée à l'ensemble de nos auditeurs, si vous le voulez bien. Et puis on se retrouve demain, 18h10, pour un nouveau magazine régional. Et dès 7h du matin, avec les différentes rédactions locales sur RCF France-Ardennes, Jean-Pierre, vous serez avec...
Avec Adriana Chobria, qui est directrice adjointe de Jean 23, du lycée Jean 23.
Et on la retrouvera également demain soir. Ça, c'est du teasing. Très belle soirée, en compagnie de nos programmes.